Je vais vous mettre l'image de deux personnes. Alors, deux personnes qui ont un point commun que d'autres peuvent, que nous, nous n'avons pas. Nous avons la reine Elisabeth d'un côté et nous avons le prince George de l'autre. Quel est le point commun de ces deux personnes et que nous, nous n'avons pas? C'est qu'ils sont issus d'une famille royale, celle qui hérite du trône d'Angleterre. Par contre, une différence entre ces deux, c'est que la mise en œuvre de cette royauté n'est pas la même. On a la reine Elisabeth qui salue des personnes avec un sourire, et on a le prince George qui, là, sur cette photo, est un peu grincheux, était encore un enfant. Et donc, la différence, c'est que la façon dont ils expriment cet héritage royal n'est pas la même. Et pourtant, ça ne remet pas en cause l'héritage pour autant. Le prince George fait partie de la lignée qui héritera du trône d'Angleterre plusieurs années plus tard. Je vais vous mettre deux autres images. Cette personne et vous. Cette personne sur la gauche, c'est une représentation de l'apôtre Paul. Et nous, qui sommes régénérés, qui avons l'Esprit de Dieu, qu'est-ce que nous avons en commun avec lui? C'est l'héritage du salut, le salut en Jésus-Christ. On a le même salut, on a le même Saint-Esprit, et pourtant, peut-être que vous sentez une petite différence dans votre vie. Peut-être vous vous dites, vous connaissez un peu l'apôtre Paul, vous connaissez ce qu'il a vécu, vous vous dites, je ne suis pas du tout à la hauteur de ce qu'il a fait. Ou je ne suis pas... Lui, c'est un super chrétien, et moi, bon, moi, je suis au ras des pâquerettes. Et pourtant, on a le même héritage du salut, le même Saint-Esprit, la même destinée éternelle. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est ce que nous allons voir ce matin, dans le texte, en Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Donc je vous invite à prendre vos Bibles. Philippiens chapitre 2, versets 12 à 18. Alors je vais le lire. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. Et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Donc ce que nous allons voir ce matin, c'est travailler à notre salut. Donc la mise en œuvre de notre salut. Comme je vous l'ai dit, la mise en œuvre du salut, ce qu'on fait, ne remet pas en cause l'héritage qu'on a reçu. De la même manière que la reine, le prince George, même s'il est enfant, peut être grincheux, ça ne remet pas en cause son héritage. Et de la même manière, la mise en œuvre, on ne travaille pas pour recevoir l'héritage, mais on met en œuvre l'héritage qu'on a reçu. Et c'est important de souligner cette différence. Donc la mise en œuvre de notre salut, c'est ce que nous allons voir. Et nous allons voir quatre points. Donc le processus, par lequel ce salut est mis en œuvre, les manifestations attendues de cette mise en œuvre, le but de cette mise en œuvre, et on peut voir les applications qui en découlent. Donc on va commencer par le processus. Alors retournez, bon, gardez le passage. On va relire le verset 12 et le verset 13. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais même plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Donc, le processus, comme vous avez toujours obéi, donc c'est déjà un acte d'obéissance de la part du croyant. La mise en œuvre du salut, c'est un acte d'obéissance de la part du croyant. Dans la lettre aux Philippiens, je vous remets le contexte, Paul est en prison à Rome, et le but de cette lettre, enfin ce qui ressort de cette lettre, c'est que Paul remercie les Philippiens pour le don qu'il a reçu de la part de ces chrétiens de Philippe, qu'il a reçu dans sa prison à Rome. Un don matériel, mais aussi un frère qui s'appelle Épaphrodite, qui est venu aider l'apôtre Paul dans son ministère. Et donc, c'est pas pour autant que Paul censure ses recommandations, ses impératifs à ses chrétiens. Le ton de la lettre a beau être sous le ton de la joie, de la reconnaissance, mais il y a aussi des recommandations que Paul délivre à ses chrétiens. On peut voir dans le chapitre 2, au début, alors, c'est totalement à l'écran, mais vous pouvez prendre le chapitre 2, verset 3. Le chapitre 2, verset 3 de Philippiens. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Donc là, par exemple, un des impératifs que Paul donne aux Philippiens, c'est de rechercher l'humilité. Un autre exemple qu'on peut voir au chapitre 3, verset 17. Philippiens chapitre 3, verset 17. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent dans le modèle que vous avez en nous. Donc, un autre impératif, c'est de suivre le modèle que Paul a donné et de porter les regards sur les personnes qui marchent selon ce modèle. Alors, après, on va revenir au chapitre 2, verset 12, à notre passage. Il est dit qu'on doit travailler à votre salut avec crainte et tremblement. Alors, au premier abord, on peut se dire, on peut être un peu dubitatif et se dire, mais est-ce que Paul révèle un Dieu qui serait colérique au moindre écart dans notre vie chrétienne? Un Dieu irascible dont nous devons avoir peur, avoir de la crainte? Mais ce n'est pas ce que Paul dit. Paul parle d'une autre crainte qu'on voit au chapitre 1, versets 18 à 21, que je vais lire. Je vous invite à le prendre. Chapitre 1, versets 18 à 21. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. J'en ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, et que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc, je vous invite à vous concentrer sur le verset 19 et 20. Pour le contexte, Paul parle de ce qui se passe dans la prison à Rome. de comment l'évangile est en train de se propager parmi les personnes de la prison, le personnel, mais aussi comment des personnes, des chrétiens à Rome, se lèvent pour annoncer l'évangile, même dans les circonstances difficiles. Et donc, ce que le verset 19 nous dit, quand Paul dit « cela tournera à mon salut », donc il ne parle pas du salut des âmes, mais surtout du salut comme une délivrance. Donc le salut, c'est comme une délivrance, hein, c'est la même chose. Et la délivrance de quoi? Au verset 20, on peut voir ça, « selon ma ferme attente et mon espérance que je n'aurai honte de rien, mais que maintenant comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. » Donc, la délivrance, c'est surtout de n'avoir honte de rien. C'est surtout de ne pas entraver la gloire de Christ dans sa vie. C'est ça, surtout, que Paul veut éviter. Ce qu'il veut mettre en avant dans sa vie, c'est la gloire de Christ, et pas sa propre gloire. Et donc, c'est pour ça qu'il parle de crainte. Il a peur de gêner, d'entraver cette gloire de Christ qui est au-delà de tout ce qui peut se faire sur terre. Et donc, en fait, c'est plutôt une crainte de décevoir, plus qu'une peur de Dieu. La crainte de décevoir Dieu après tout ce qu'il nous a donné. Et donc, il faut comprendre cet acte d'obéissance comme un acte volontaire pour plaire à Dieu. C'est surtout ça. Et de ne pas décevoir Dieu qui nous a tellement donné par ce salut. Donc, voilà. Le premier processus, c'est un acte d'obéissance. Le deuxième, on va le voir dans le verset 12 du chapitre 2. Donc, Philippiens chapitre 12, verset 2. À la fin du verset 12, il est dit « non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. » Donc, c'est un processus qui est constant dans la marche du chrétien. Ce n'est pas par période ou par séquence, ou quand il faut que le pasteur, quand le pasteur, ou quand je suis là le dimanche, bon là, je vais mettre en avant mon salut, et puis le reste des jours, bon ben je fais rien. Pour. C'est vraiment constant. Que ce soit en présence ou en l'absence de Paul. Et c'est ce que Paul a vécu lui-même. C'est-à-dire que même s'il n'y avait personne dans sa prison à Rome, qu'il a été trahi, on peut le voir au début du chapitre 1, qu'il a été trahi par même des personnes, des frères en Christ, ce n'est pas pour ça qu'il a arrêté d'annoncer l'évangile. Et c'est ce qu'il demande aux Philippiens, au chapitre 1, verset 27-30. Donc, chapitre 1, verset 27 et 30. Je vais vous lire. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'évangile de Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Au verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc on peut voir ici que Paul demande à ses chrétiens de Philippe à ce que leur marche chrétienne soit digne de l'évangile, digne du salut en Jésus-Christ, en cohérence. Et il parle au verset 30, en soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. Donc le combat, c'est-à-dire les souffrances pour l'évangile. Et donc, ce combat, il se combat en permanence. C'est-à-dire que ce n'est pas certains jours ou certains mois de l'année, mais c'est vraiment en permanence. Et donc, Paul incite les Philippiens à combattre ce même combat pour l'évangile. Et donc on va voir la dernière partie de ce processus au verset 13, chapitre 2, verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc ce processus de la mise en œuvre, c'est une coopération avec Dieu. C'est lui qui donne le pouvoir, le vouloir et le faire. Et on voit que, à l'exemple de Paul, Paul s'appuyait sur Dieu. On peut le voir au chapitre 1, verset 19, dans sa prison à Rome. Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. On voit que Paul s'appuie sur l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus-Christ. Sa marche chrétienne dans la prison à Rome. On peut voir aussi, au chapitre 3, verset 3, car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. Donc là, Paul parle des chrétiens, et les chrétiens ne mettent pas leur confiance en la chair. Et ils rendent un culte à Dieu par l'Esprit de Dieu. Donc on voit que ce que Paul dit, c'est qu'on doit s'appuyer sur Dieu et ne pas s'appuyer sur notre propre chair, sur notre propre sagesse, sur notre capacité à mettre en œuvre ce salut. On peut voir aussi le témoignage personnel de l'apôtre Paul au chapitre 3, versets 7 à 8 et au verset 10. Donc ça, c'est son témoignage de ce qu'il a vécu avec Jésus-Christ. Donc en parlant de ses capacités, de sa sagesse, Paul était un pharisien, un docteur de la loi, donc c'était quelqu'un d'érudit et de très bien placé aussi dans la société juive. Et donc ce qu'il dit en ayant rencontré Jésus-Christ, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Au verset 10, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection, et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort. Donc, ici, Paul parle de ses capacités comme rien du tout, une perte, de la boue, devant l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Donc, cette relation qu'il a avec Jésus-Christ est beaucoup plus puissante, beaucoup plus efficace, beaucoup plus merveilleuse que sa sagesse, son instruction. Et au verset 10, ce qu'il cherche à faire, c'est de connaître Christ, approfondir sa relation avec lui et connaître cette puissance de la résurrection. Donc, en Dieu, il y a cette puissance pour mettre en œuvre ce salut. Et c'est ce que Paul fait, il s'appuie dessus. Et il fixe ses yeux sur Jésus-Christ. Il ne fixe pas ses yeux sur ses capacités, sur sa faiblesse ou ses forces, mais vraiment sur l'œuvre de Christ. Et un dernier verset pour ça, Philippiens 1:6. Philippiens 1:6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, celui qu'on voit dans le verset 6, c'est Dieu lui-même. Donc, c'est Dieu qui a commencé en nous cette bonne œuvre, ce salut. Il ne va pas faire le début et nous laisser faire la fin. Non, c'est lui qui la rendra parfaite. C'est lui qui est au cœur du processus. Donc en résumé, le processus est un acte d'obéissance de la part du croyant. Donc, il y a la part de l'homme. C'est une constance, c'est-à-dire que ce n'est pas un processus qui est séquentiel, mais ça doit être quelque chose qui doit être constant. Et c'est une coopération avec Dieu, parce que c'est Dieu qui donne le vouloir et le faire, qui achèvera l'œuvre et qui a la puissance pour que le salut soit mis en œuvre dans notre vie. Donc on va voir après les manifestations attendues de la mise en œuvre de notre salut. Donc on va prendre le verset 14 du chapitre 2. Donc, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Donc, la première chose qu'on peut voir, sans murmure. Donc, nos actions doivent être dans des dispositions bienveillantes. Paul, alors, murmure, c'est le grec logismos, et ça décrit plutôt un mécontentement interne. Ce n'est pas forcément externe, ça ne se voit pas forcément, mais c'est vraiment un mécontentement plutôt intériorisé. Paul cite l'exemple de personnes qui avaient des dispositions qui n'étaient pas bienveillantes et pourtant qui faisaient des actes qui étaient en apparence vraiment positif pour l'évangile. Donc, on peut voir ça au chapitre 1, versets 15 à 17. Chapitre 1, versets 15 à 17. Quelques-uns, il est vrai, prêchent Christ par envie et par esprit de dispute, mais d'autres le prêchent avec des dispositions bienveillantes. Ceux-ci agissent par amour, sachant que je suis établi pour la défense de l'évangile, tandis que ceux-là, animés d'un esprit de dispute, annoncent Christ par des motifs qui ne sont pas purs et avec la pensée de me susciter quelques tribulations dans mes liens. Verset 18. Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour l'apparence ou que ce soit sincèrement, Christ n'est pas moins annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore. Donc on peut voir que ces personnes que Paul décrit prêchent Christ par envie et par esprit de dispute. L'acte qui en résulte, c'est la prédication de Christ. Donc en soi, et même au verset 18, Paul le dit, c'est très positif. Paul s'en réjouit même. Mais la disposition dans laquelle est faite cette action est malveillante, par envie, par esprit de dispute. Peut-être vous dites, vous reconnaissez un peu dans ça. C'est-à-dire que vous servez le Seigneur, mais bon, pas dans des dispositions bienveillantes. Peut-être vous dites que c'est par contrainte, ou pour l'apparence. Voilà, je viens le dimanche, comme ça on va pas me dire que je suis pas venu. Le verset 14 est clair, faites toutes choses sans murmure. C'est-à-dire, vraiment, que nos motivations dans nos actions soient pures. Si c'est votre cas, je vous invite à prendre le Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Même verset 8. Verset 6 à 8. Alors, je vous le lis. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Donc, le Seigneur nous invite à confier nos besoins, nos faiblesses, nos péchés même. Et si vous vous appuyez sur le Seigneur, sa paix, vous voyez le verset 7, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Donc nous ne pouvons pas changer nos dispositions comme ça. Des fois, il y a des pensées qui viennent qu'on ne contrôle pas. Mais il faut confier à Dieu ces pensées, ces mauvaises pensées, ce mécontentement, et que Dieu nous transforme. Et au verset 8, bien sûr, c'est bien de confier à Dieu, mais il faut que nos pensées soient remplies de choses qui sont à sa gloire. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Il n'est pas dit l'objet de vos actes. Ça ne commence pas par les actions, ça commence par les pensées. Et la deuxième chose, une manifestation attendue, c'est qu'on doit faire toute chose sans hésitation ou sans raisonnement dans votre version. Donc des actions avec un cœur dévoué. Donc le terme raisonnement ou hésitation, c'est le terme grec dialogismos, de laquelle vient dialogue. Et en fait, ça décrit un homme qui délibère avec lui-même. Un homme qui, voilà, qui hésite, qui pense beaucoup, ou qui peut se chercher des excuses. On peut même mettre ça en corollaire. Et on peut voir l'exemple de Paul. Paul n'était pas quelqu'un comme ça. Chapitre 3, versets 13 à 14. Philippiens, chapitre 3, versets 13 à 14. Donc, l'exemple de Paul. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oublions ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ici, on peut voir que le but de Paul, dans sa vie, c'est de courir vers Jésus-Christ. Et pour cela, il se porte vers ce qui est en avant. Mais il oublie ce qui est en arrière. Et souvent, ce qui peut arriver, c'est que quand Dieu nous demande quelque chose, on peut parler du passé. On peut dire, on peut se donner des excuses par rapport à notre passé. Là, dans le contexte, Paul peut, les choses du passé, pour Paul, c'était quand il était pharisien, qu'il était vraiment instruit dans la loi. Qu'il était même persécuteur de l'Église avant de rencontrer Jésus-Christ. Il peut ressasser le passé pour se donner des excuses pour ne pas se tourner vers l'avant. Mais ce qu'il fait, c'est qu'il oublie ce qui est en arrière et se porte vers ce qui est en avant. Et l'exemple de ce cœur dévoué, le suprême exemple, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. On peut voir ça au chapitre 2, versets 6 et 7. Philippiens chapitre 2, versets 6 et 7. Existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur et en devenant semblable aux hommes. Donc là, vous voyez bien que Christ, bien qu'il est Dieu, bien qu'il avait le privilège d'être assis à la droite du Père, il n'a pas regardé ce privilège, il n'a pas tergiversé, il n'a pas hésité, il s'est dépouillé lui-même. Et donc on voit l'exemple suprême d'un cœur dévoué. Et il s'est dépouillé lui-même pour nous sauver. Il a laissé tous ses privilèges, ce qu'il y avait de plus grand qu'aucun homme peut connaître. Et il s'est dépouillé lui-même en prenant le forme d'un serviteur, et même il est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver. Et c'est un exemple suprême de ce que doivent être nos actions avec un cœur dévoué. Et qu'en est-il de nous ? Des fois, Dieu, il nous demande de sortir de notre zone de confort, de nos privilèges, de notre situation. Et il nous demande d'aller dans un endroit où, un peu inconnu peut-être, qui nous semble inconnu, qui nous semble contre-intuitif. Mais on doit le faire, si Dieu nous demande, on doit le faire d'un cœur dévoué, à l'image de Christ, qui lui s'est dévoué pour nous sauver et qui a payé le prix le plus cher. Et qui a laissé ses privilèges. Et donc, les manifestations attendues. Donc, vous voyez que c'est plutôt des choses qui sont vraiment intérieures. Ça commence par l'intérieur. Et après, ça ressurgira à l'extérieur. Donc, nos actions doivent être dans des dispositions bienveillantes et avec un cœur dévoué. On va voir le but de la mise en œuvre de notre salut. Pourquoi tout ça? On peut le voir au verset 15 à 18 du chapitre 2. Chapitre 2, verset 15 à 18, que je vais vous relire. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie, et je pourrai me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis, et je me réjouis avec vous tous, vous aussi, réjouissez-vous de même, et réjouissez-vous avec moi. Donc on peut voir au verset 15, au début du verset 15, la conjonction « afin ». Donc, ce qui a précédé le verset 15, c'est dans le but que l'on va voir dans le verset 15 jusqu'au verset 18. Et donc, le premier but, c'est que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles. Et surtout, c'est que par le fait d'être irréprochable, on puisse briller dans ce monde corrompu et pervers. Donc, les mots irréprochable, pur et irrépréhensible font référence surtout à notre comportement, au regard que porte le monde sur nous. Donc, irréprochable, c'est-à-dire qu'on ne peut reprocher, aucun reproche ne peut être formulé à notre encontre. Pur, ça veut dire que nous sommes d'un seul tenon, d'une seule substance, c'est-à-dire que il n'y a pas de mélange entre deux substances. Dans notre comportement ou dans nos paroles, ça veut dire que nous ne pouvons pas marcher avec Christ et en même temps marcher contre Christ ou dans une influence qui est contre Christ. Donc c'est vraiment d'un seul tenon. Et irrépréhensible, ça veut dire bon, sans aucun défaut. C'est-à-dire dans la même idée que irréprochable, c'est qu'on ne peut pas reprendre, qu'on ne peut pas réprimander. Donc, ces trois adjectifs font référence à notre comportement. Et donc, on peut voir que, par rapport au point précédent, la façon dont nous faisons nos actions, les choses sans murmure, sans hésitation, ça impacte notre comportement. Et donc, ça va impacter la façon dont on va briller dans le monde. Donc, c'est pour ça que Paul met l'accent sur ces choses, sur nos pensées, pour pouvoir briller dans ce monde. Et puis, on a notre comportement, mais aussi on a ce qu'on proclame, ce qu'on exprime, c'est-à-dire la parole de vie. On voit au verset 16, portant la parole de vie. Et la parole de vie, c'est l'évangile de Christ, la bonne nouvelle. Le fait que Christ nous a sauvés de la mort éternelle. On est passé de la mort à la vie par l'œuvre de Christ. Et donc, pareil, cette parole ne peut pas être déformée, ne doit pas être déformée ou atténuée. Donc on doit être pur, irréprochable, irrépréhensible dans notre comportement et aussi dans l'évangile que l'on proclame si on veut briller dans ce monde. Parce que ce monde a tendance soit à être contre Dieu, soit à déformer ce qu'est la parole de Dieu ou ce qu'est la nature de Dieu. Et donc on doit être des exemples reflétant le caractère de Dieu, que cela soit dans nos actes ou dans nos paroles. Et on peut voir que par exemple, les Philippiens brillaient comme des flambeaux dans le monde. Donc c'est vraiment pas une petite étincelle, pas une petite bougie, que si on souffle dessus ça s'éteint. C'est vraiment des flambeaux. Et pourquoi ? Parce qu'il y a un témoignage visible, c'est-à-dire que ça se voit dans leur comportement. Il y a aussi un témoignage, le contenu du message qui est délivré, qui est conforme à l'évangile de Christ. Donc c'est pour ça que les Philippiens brillaient comme des flambeaux. C'est parce qu'ils étaient irréprochables, purs, irréprochables, des enfants de Dieu irrépréhensibles et portant la parole de vie. Donc, on a vu, le premier but c'est de briller dans ce monde de ténèbres. Et le deuxième but, on voit au verset 18 qu'il y a un mot qui se répète, fin de verset 17, verset 18. Et je me réjouis avec vous tous, vous aussi, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. Et donc, le deuxième but, c'est la joie du peuple de Dieu. La mise en œuvre du salut a pour but aussi la joie du peuple de Dieu. Déjà, ça a commencé au verset 16. Et je pourrais me glorifier au jour de Christ de n'avoir pas couru en vain, ni travaillé en vain. Donc, ça a commencé déjà, cette histoire avec Philippe, par le travail de Paul. Donc, Paul a fondé cette église. On peut le voir en Actes chapitre 16, du verset 12 à 40. Que je vous laisserai lire à la maison si, pour voir comment cette église de Philippe est née. C'est aussi, le travail de Paul, c'est aussi les prières pour cette église, l'intercession pour cette église. Chapitre 1, verset 3 et 4. Chapitre 1, verset 3 et 4, que je vais vous lire. Verset 3 et 5. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester ma joie au sujet de la part que vous prenez à l'évangile depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Donc, verset 4, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous. Donc, c'est des prières incessantes, vraiment constantes. Paul avait vraiment à cœur cette église et combattait dans la prière. Et vous pouvez voir au verset 5 que il est vraiment dans la joie de voir que les Philippiens ont pris part à l'évangile, vivent pour l'évangile de Christ. Le travail de Paul, c'est aussi l'exemple qu'il laisse, le modèle qu'il laisse aux Philippiens. Au chapitre 1, verset 30, chapitre 1, verset 30, « En soutenant le même combat que vous m'avez vu soutenir et que vous apprenez maintenant que je soutiens. » Donc, Paul incite les Philippiens à combattre le même combat de la foi, c'est-à-dire la proclamation de l'Évangile à travers le monde. Et la deuxième chose qu'on peut voir, verset 17, et même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis et je me réjouis avec vous tous. Donc là, Paul emploie l'image d'un sacrifice avec une libation. Donc, un sacrifice, c'est ce qu'on offre devant Dieu. Dans l'Ancien Testament, et même dans l'Ancien Testament, le sacrifice était soit un animal, soit c'était souvent un animal qu'on présentait devant Dieu, soit comme expiation, l'expiation des fautes, soit comme offrande à Dieu. Et la libation, c'était en fait un versement de liquide qu'on répandait à la fin de la préparation du sacrifice. Donc c'est à la fin de la préparation. C'était soit du vin, soit de l'huile d'olive. Et donc, Paul compare ce sacrifice et cette libation respectivement à la foi des Philippiens. Donc le sacrifice, c'est la foi des Philippiens qui présente à Dieu, et la libation, c'est la vie de Paul, la fin de vie de Paul. Donc lorsque Paul dit même si je sers de libation, il pense à l'offrande volontaire de sa vie à Dieu pour la contribution à la foi et à la marche chrétienne des Philippiens. S'il restait une seule chose à accomplir pour que cette offrande, cette foi des Philippiens, puisse être parfaitement acceptable devant Dieu, Paul est prêt à se sacrifier, à sacrifier sa propre vie, et que ça soit mis sur le compte de la foi des Philippiens, sur la marche chrétienne des Philippiens. Donc vous voyez que Paul ne regarde pas sa propre vie, Paul ne regarde pas son propre confort, il est même prêt à ce que sa vie, même sa mort, soit pour le bénéfice de l'édification de la foi des Philippiens. Et pour lui, c'est un sujet de joie. Ce qu'il recherche avant tout, Paul, pour les Philippiens, vous pouvez voir ça au chapitre 15, versets 17 et 18. Chapitre 4, versets 17 et 18. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche le fruit qui abonde pour votre compte. Verset 18. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de bien en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Donc vous voyez que l'image de sacrifice dans ces versets est employée et ça fait référence à ce que les Philippiens ont fait pour Paul par le don qu'il a reçu. Et donc c'est la mise en œuvre de leur foi, la mise en œuvre de ce que Jésus-Christ a fait pour eux, manifestée par ce don. Et cette manifestation, c'est vraiment présentée comme un sacrifice de bonne odeur à Dieu. Donc le lien entre sacrifice et foi, Paul le fait surtout par rapport à la manifestation de cette foi. D'accord ? Et s'il peut ajouter, par sa vie, à cette manifestation, à ce qu'elle soit de plus en plus glorieuse, de plus en plus conforme à Jésus-Christ, il est prêt à le faire, à faire le sacrifice lui-même. Et c'est pour lui un sujet de joie. Et il veut que pour les Philippiens, ce soit un sujet de joie. Que toutes les choses concourent pour la foi, pour notre édification, à la gloire de Jésus-Christ. Donc les buts de la mise en œuvre de notre salut, c'est pour briller dans le monde. Et c'est aussi pour la joie du peuple de Dieu. Ça doit nous réjouir que notre salut soit mis en œuvre. Ça réjouit les autres qui voient que notre salut est mis en œuvre. Et ça réjouit nous-mêmes de voir aussi que d'autres qui mettent en œuvre notre salut, ça compte aussi dans la mise en œuvre de notre propre salut. Vous voyez que tout est relié. Et donc on va voir les applications. Donc la première chose, c'est de savoir dans votre vie qu'est-ce que vous mettez, qu'est-ce que vous impliquez dans la mise en œuvre de votre salut. Qu'est-ce que vous mettez comme temps à part, ou comme effort, comme priorité dans votre vie. Est-ce que c'est la mise en œuvre de votre salut qui est mise en avant, ou est-ce que c'est autre chose? Quelle est mon attitude lorsque Dieu me demande quelque chose? On a vu que c'est dans nos pensées que ça commence. C'est dans la façon dont on fait les actions, dont on fait les choses, des dispositions bienveillantes et un cœur dévoué. Est-ce que je suis conscient que mon attitude à l'égard de ce que Dieu me demande peut affecter la façon dont le monde me perçoit, dans la façon dont je brille dans ce monde? Est-ce que je suis vraiment conscient de ça? On l'a vu dans ce passage que ça peut affecter la façon dont on brille. Et où en suis-je dans ma vie chrétienne? Est-ce que je suis un sacrifice de bonne odeur devant Dieu, ou plutôt de mauvaise odeur? Est-ce que je me réjouis de voir que dans ma vie chrétienne ou dans la vie chrétienne des autres, je vois qu'il y a du progrès dans la mise en œuvre du salut? Est-ce que je me réjouis de cela? Est-ce que c'est un sujet de joie? Ou est-ce que je suis plus préoccupé par autre chose? Et comment puis-je voir les circonstances de ma vie? Vous savez, Paul, il était en prison à Rome, seul, et pourtant, il se réjouissait. Pourquoi? Parce que ce qui le préoccupait, c'est surtout sa relation avec Christ. Et même les circonstances, il voyait les circonstances comme pouvant être bénéfiques pour cette relation. Est-ce que je vois mes circonstances de vie comme pouvant être bénéfiques pour ma relation avec Jésus? Ou est-ce que ça reste des circonstances désagréables, si je me plains et je ne suis pas content, et peut-être même que vous n'êtes pas content envers Dieu? Non, c'est pas comme ça que ça doit être. On doit saisir toute occasion, toute circonstance pour approfondir notre relation avec Jésus. Peut-être vous dites, bon ben moi je suis vraiment ras des pâquerettes, en voyant tout ça. Je suis vraiment très loin de ce que Dieu attend de moi. Dans ce passage, il y a quand même un encouragement. Et on peut le voir dans un verset qu'on a vu, chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, ce n'est pas du tout par votre effort, par votre intelligence, que vous allez mettre en œuvre ce salut. C'est parce que Jésus-Christ a déjà tout fait et il va faire que cette œuvre qui a commencé en nous sera parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Donc, il ne faut pas s'appuyer sur nous-mêmes, mais sur la puissance de Dieu. Comme Paul l'a fait, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas confié en sa propre chair, mais il a fixé ses yeux sur Jésus-Christ. Donc, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire par rapport à votre salut? Si vous pensez que c'est par vos propres forces que vous allez le mettre en œuvre, ça sera peine perdue. Ce qu'il faut, c'est fixer vos yeux, vous diriger vers la croix de Christ. Le passage que nous avons vu, il fait suite à la description de ce que Christ a fait pour nous, au chapitre 2, versets 5 et 11. Christ n'a pas regardé à ses privilèges pour nous sauver. Il n'a pas regardé à sa puissance, à sa gloire. Il s'est dépouillé. Il s'est dépouillé lui-même et même jusqu'à la mort de la croix. Il a vécu parfaitement pour nous sauver. Et peut-être aussi que vous, que ce salut, peut-être que vous ne connaissez pas du tout, vous ne savez pas de quoi il en est question. Peut-être vous venez ici et Jésus-Christ vous semble loin ou c'est quelque chose qui qui ne vous parle pas. Sachez que Jésus-Christ c'est Dieu qui est venu vers vous. C'est Dieu qui est venu vous sauver. Parce que nous ne pouvons pas être justes devant Dieu. Et c'est lui qui a tout fait pour que nous soyons justes devant Dieu. Et il suffit de simplement croire que Jésus s'est sacrifié et ressuscité pour vous afin que vous soyez justes devant Dieu.